La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. L'actualité politique nationale est en ébullition depuis dimanche. Nous allons bien sûr y revenir avec ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue les débuts à la mêlée d'Hélène Cabanne, conseillère municipale de Toulouse, conseillère communautaire de Toulouse Métropole, membre d'Europe Écologie Les Verts, qu'il faut appeler je crois maintenant les écologistes tout court. Et je salue aussi Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie, membre du parti Les Républicains, et Pierre Fournier, membre du parti Renaissance, référent Haute-Garonne des Jeunes avec Macron. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci à Hélène Cabanne de sa confiance. Quand je dis que l'actualité politique nationale est en ébullition depuis dimanche, tout le monde aura compris que je parle de ce qui s'est passé depuis l'annonce des résultats des élections européennes. Le verdict des urnes a donné une large victoire au Rassemblement national, comme chacun sait, avec 31,4% des voix, ce qui lui permet d'avoir 30 sièges au Parlement européen, un score plutôt conforme à ce qu'annonçaient les sondages. Suivent Renaissance avec 14,6% et 13 sièges, la liste PS Place Publique avec 13,8% et 13 sièges aussi, puis la France Insoumise 9,9 sièges, les Républicains 7,25%, 6 sièges, Europe Écologie Les Verts, les écologistes 5,5, 5 sièges et Reconquête 5,5, 5 sièges également. Le taux de participation, il faut le noter, de 51,5%, il est plus élevé que prévu. Globalement, le résultat de ces élections correspond-il à ce à quoi vous vous attendiez et quelles leçons, quels enseignements en tirez-vous? Je précise que nous parlerons bien sûr de la dissolution de l'Assemblée nationale en seconde partie d'émission. Soyez patients, c'est Hélène Cabanne qui va s'exprimer la première sur les résultats des européennes.
Bonsoir à toutes et tous. Oui, sur ce résultat des élections européennes, mais en fait, il n'y a pas eu de surprise par rapport au sondage qui était sorti. Et malheureusement, le Front National est très haut. Concernant notre formation politique, c'est une déception, et il faut le dire, c'est un échec même, puisque nous avions fait plus de 13% aux dernières élections européennes de 2019, et là, on dépasse les 5%, 5,5%, donc on aura 5 députés européens. Ce que je regrette aussi, ce que je constate, c'est que finalement, l'enjeu autour de ces élections européennes n'a pas été au bout du projet européen, dans le sens où on a beaucoup parlé d'enjeux nationaux et on n'a pas parlé d'Europe dans ces élections. Et c'est en partie aussi pour ça que notre formation politique s'est trouvée en difficulté, je pense. J'aimerais du coup dire quand même, pour nos auditeurs et nos auditrices, que c'était une élection européenne. Et donc, il faut regarder ce qui s'est passé au Parlement européen. Et donc, la composition du Parlement européen à la sortie des urnes, à la sortie de ces élections, fait que la droite, finalement, conforte sa position de premier groupe politique au Parlement européen, devant les sociaux-démocrates. Et ensuite, nous avons l'extrême droite qui progresse, clairement. Mais ce n'est pas non plus une percée fulgurante comme on aurait pu l'imaginer. Ce n'est pas un raz-de-marée comme on aurait pu l'imaginer au niveau européen. Les grands perdants de ce scrutin, finalement, ce sont les libéraux, le Renew, et puis nous, les écologistes, puisque nous perdons 18 sièges, pas seulement du côté français, mais aussi du côté allemand. Donc il est important de revenir sur l'enjeu de ces élections qui étaient européennes, même si en France, j'ai la sensation que ce sujet-là nous a été un peu confisqué.
Alors depuis dimanche, et une certaine annonce, je pense que c'est encore pire. Alors Sacha Briand, vous, après ce premier petit tour d'horizon des résultats des élections par Hélène Cabanne, vous, qu'est-ce que vous retenez ?
Moi, je retiens essentiellement deux enseignements. C'est que certes, les sondages n'ont pas été démentis, mais pour autant, on a eu une participation en hausse,
oui, je pense
avec
que c'est un
mouvement
point important,
qui s'est sensiblement accéléré en fin de période. Et on l'a vu à Toulouse comme au niveau national. Et malgré cette réaction de l'électorat, cette mobilisation de l'électorat, ça n'a pas eu d'impact sur les scores annoncés, notamment celui du Rassemblement national. Ça veut dire que la mobilisation qui s'est faite dans les derniers jours de la campagne européenne n'a pas été une mobilisation contre la prédiction des sondages. Le deuxième enseignement que je tire, c'est, s'agissant de la gauche, que cette mobilisation, elle a eu un effet sensible, puisqu'on a vu progresser LFI, mais on a surtout vu progresser Glucksmann, et donc on a vu l'électorat de gauche envoyer un message très clair indiquant que entre LFI et la voie proposée par Raphaël Glucksmann, leur choix était clairement celui de la modération, celui de cette gauche social-démocrate qui est parfois représentée par certains responsables politiques. Et ça veut dire aussi que par rapport à la situation que nous voyons aujourd'hui, aux négociations qui sont menées aujourd'hui par l'ensemble des forces politiques de gauche, y compris les extrémistes du NPA, eh bien, nous avons aujourd'hui des formations politiques qui font l'exact inverse de ce que a souhaité les électeurs de gauche dans le scrutin européen. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important, et ça veut dire qu'il est probable que dans les élections législatives qui s'annoncent, on ait un décrochage entre ce qui est décidé au niveau national par des responsables politiques qui ne cherchent qu'à faire une tambouille, et le message envoyé par les électeurs. Et puis enfin, s'agissant du mouvement auquel j'appartiens maintenant depuis 36 ans, puisque j'y ai adhéré au jour de mes 18 ans, je dois dire que ce que j'ai vécu au travers de... malgré une campagne de qualité de François-Xavier Bellamy, hein, qui a essayé d'exprimer et de porter un discours précisément porté sur la politique européenne en essayant d'exposer son bilan, dont on peut discuter, mais en essayant quand même d'attirer l'attention sur les enjeux européens, eh bien, mon parti, héritier du général de Gaulle, se trouve aujourd'hui à bout de souffle et a besoin effectivement d'une véritable révolution pour pouvoir se relancer, indépendamment des péripéties grotesques et qui relèvent manifestement de la psychiatrie que nous avons connue depuis 48 heures.
Bon, on reviendra sur ces points-là, sur ce qui se passe aujourd'hui à gauche et ce qui se passe au LR, bien entendu, en seconde partie d'émission. Concernant le taux de participation, je signale que c'est le plus élevé depuis 30 ans tout de même. On n'a pas assez insisté sur ce point.
Pour les élections européennes.
Pour les européennes, bien entendu. Hein, on part des choses comparables. Alors vous, Père Fournier, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode des européennes qui a été tout de suite enchaîné par un autre épisode? Mais bon, on va pour l'instant rester au résultat brut.
Bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, c'est un échec de tous les partis de gouvernement. Aujourd'hui, on a le bloc d'extrême droite, ce qu'on compte le Rassemblement national, mais aussi Reconquête, qui a fait un score non négligeable. Le bloc entier fait près de 40%. Alors, on a un score historique de mobilisation pour les européennes, mais ça reste un score de participation assez faible si on compare aux autres élections, même si c'est un record pour les élections européennes, et on peut s'en féliciter là-dessus.
Reste à savoir à quoi il est dû ce regain de mobilisation. Est-ce que c'est un intérêt pour les européennes, ou est-ce que ce sont les enjeux nationaux qui ont primé, là?
C'est bien le problème. Nous, on a voulu concentrer notre discours et notre programme sur l'Europe. En fait, on a fait plein de propositions, un programme entier. Si on regarde ce que proposait le Front National...
Le Rassemblement National, je sais que les gens sont restés à Front National.
Je préfère...
Je sais beaucoup que je regarde le Front National.
Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que nous, on veut déjà remercier les millions d'électeurs qui ont voté pour nous là-dessus. Et on a eu une tête de liste qui n'a pas flanché. Valérie Ayé a fait une super campagne. C'est une femme qui travaille énormément au Parlement européen, qui n'était pas habituée des plateaux TV, hein, contrairement à M. Bardella. Et aujourd'hui, on se retrouve avec... Au final, on se retrouve avec un Parlement européen qui ne change pas tellement de configuration. On reste, je disais à mes militants, l'Europe est sauve. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur les élections législatives qui arrivent parce qu'au Parlement européen, en fait, le bloc...
Le PPE,
les sociaux-démocrates et Renew reste la majorité, enfin la coalition majoritaire, et l'extrême droite reste en minorité. Même si, au final, la France est un des pays où l'extrême droite monte le plus.
Bah, c'est la plus forte percée. Oui.
Exactement. Donc nous, on a eu une élection, ça a été un échec, je vous l'ai dit, mais en fait un échec de tout le monde. Le bloc de gauche reste dispersé, c'est battu sur des velléités qui n'avaient rien à voir avec l'Europe. La droite dite républicaine aujourd'hui se bat malheureusement pour des cacahuètes face au Rassemblement National pour les élections législatives.
Et, ces cacahuètes s'appellent l'honneur, Monsieur Fournier.
Ah mais je c'est pas vous que je pardon, ce n'est pas vous que j'accuse, hein. C'est plutôt Monsieur Ciotti qui a décidé de vendre son honneur pour quelques sièges au Parlement.
Vous avez fait le tour de ce que vous vouliez dire, apparemment. Oui. Alors, on va... une chose quand même dont il faut qu'on parle, on a parlé du taux de participation, ça me semble important. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut relativiser à cause de ça le score du RN? Mais les législatives vont vite nous donner la réponse. Une chose que beaucoup de gens ont remarqué, c'est que la carte de France des votes est assez parlante. Le RN arrive en tête dans les campagnes, dans les villes petites et moyennes, et plutôt largement derrière dans la plupart des grandes villes, c'est le cas à Toulouse par exemple. Est-ce que c'est un indice de plus de la fracture entre la France dite périphérique, pour reprendre le terme du démographe Christophe Guillouis, et celle des métropoles? Est-ce que ça montre que cette fracture aujourd'hui va grandissante et qu'elle est quelque part, qu'elle est d'une certaine manière irrémédiable? Hélène Cabanne.
Mais sur cette fracture, c'est une réalité et ça a été effectivement démontré par des scientifiques et des géographes. Nous, écologistes, en responsabilité en tant qu'hommes et femmes politiques, on s'appuie sur les données de la science pour proposer des choses et pour analyser les événements. Là, c'est vrai, la fracture entre les campagnes et les villes, pour le dire vite, existe. Et on voit que les personnes qui sont tentées de voter l'extrême droite sont des personnes qui sont parfois isolées, se sentent reléguées à juste titre, où on est dans des endroits où il y a très peu de services publics, où on se rend compte que petit à petit, on est isolé. Je pense à des études qui ont été faites dernièrement sur la jeunesse, qui est dans ces milieux ruraux, qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à bouger et à rencontrer d'autres personnes. Tout ça participe au fait qu'il y a une inquiétude aussi, je pense, à l'égard de ces personnes, vis-à-vis de ce qui arrive devant nous. Je pense qu'il y a une inquiétude globale aussi dans la société par rapport au dérèglement climatique. On parle de éco-anxiété. Ça fait partie aussi, je pense, de cette inquiétude globale. Et on voit que certains politiques n'arrivent pas à porter des solutions. Et je pense que le vote Rassemblement National fort et Reconquête aussi, il ne faut pas oublier effectivement qui est fort également, démontre un ras-le-bol, une fatigue des gens. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont du mal même en travaillant, c'est compliqué de boucler les fins de mois. Il y a beaucoup d'inégalités et je pense qu'il y a un vote de protestation et une envie d'en finir avec la mandature macroniste.
Alors, je profite de ce que vous venez de dire d'abord pour corriger une bêtise que j'ai dite. Christophe Guillouis n'est pas démographe, mais géographe. Et vous l'avez un petit peu corrigé dans votre propos. Et une question, vous avez parlé d'éco-anxiété, mais alors comment se fait-il, si l'éco-anxiété est un peu générale, que votre parti n'arrive pas à convaincre? Non seulement il n'arrive pas à convaincre, mais d'une certaine manière, je reprends un terme d'escalade, il dévisse pour passer de 13,5% en 2019 à 5,5% aujourd'hui dans un scrutin qui, traditionnellement, lui est plutôt très favorable.
Oui, c'est vrai, c'est un scrutin européen, c'est dans l'idéologie, c'est dans l'idée de base.
C'est Europe écologie, en plus.
Exactement, ouais. C'est tout à fait. On sait que pour mettre en place les politiques utiles pour la population européenne, c'est à cette échelle-là qu'il faut travailler. C'est à cette échelle-là qu'il faut poser les problématiques et qu'il faut mettre en place des politiques d'envergure, comme ça avait été fait au lendemain de 2019, où beaucoup d'écologistes, et pas seulement français, sont arrivés au Parlement européen et sont arrivés à imposer le pacte vert. Il y a eu énormément de choses qui ont été mise en place au niveau européen. Et là, ces derniers mois, on a vu la coalition des droites, de l'extrême droite, contre les écologistes et revenir sur un certain nombre de décisions. Par exemple, le glyphosate. L'autorisation du glyphosate qui a été de nouveau mis en place. Il y a des reculs importants qui sont faits. Et comme on a l'habitude de le dire, malheureusement, dans les instances de gouvernance, il n'y a pas d'écologie. Et donc, effectivement, nous sommes inquiets par rapport à ce qui va se passer maintenant au niveau européen.
Alors, ça ne répond pas à la question pourquoi votre discours ne porte pas.
Alors, disons que je ne sais pas qu'il ne porte pas, il a eu porté, puisqu'en 2019, vous l'avez rappelé.
Il porte moins.
Il a peut-être moins.
Il porte, c'est-à-dire qu'il a infusé dans la société et même dans les programmes des autres partis, mais vous n'en retirez pas les bénéfices dans les urnes.
On n'en a pas retiré les bénéfices dans les urnes pour cette fois-ci, effectivement. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas les fois prochaines. Mais on a aussi, jouer de malchance dans un climat où on a tendance à brutaliser les idées écologistes, on a tendance à utiliser des termes complètement, j'ai envie de dire, inappropriés quand on entend le terme écoterroriste porté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour parler de militants écologistes qui cherchent à défendre le vivant.
Non. Des militants radicaux qui brûlent des camions de CRS et qui attaquent des policiers.
Il met tout le monde dans le même sac. Il parle d'éco-terroristes. Et moi, quand j'entends ça, je me sens visée.
Les écologistes se mettent devant eux pour les protéger.
Et après, ce sont ces gens-là qui viennent se plaindre et qui viennent dire que dans les campagnes, il y a des attaques envers des élus. Mais quand vous avez ce genre de discours et que vous mettez sur une étiquette sur des écologistes en disant que c'est la même chose que des terroristes, vous mettez en danger tout le monde, notamment nous qui sommes écologistes.
Sacha Briand.
Il suffirait que les écologistes se démarquent clairement et nettement des casseurs, des antifas, des militants qui attaquent à coups de cocktail Molotov les forces de l'ordre pour que cette accusation ne puisse pas rejaillir sur eux.
Mais je suis sûr qu'ils ont des débats en interne, parce qu'ils doivent quand même se poser la question pourquoi dans les urnes ils n'arrivent pas à avoir un discours qui porte et qui leur permet d'en retirer quelques bénéfices électoraux. Alors, Sacha Briand, sur la fracture entre les campagnes et les métropoles, quand on regarde la carte, c'est vraiment... Mais flagrant.
Enfin, ça fait près de 15 ans maintenant qu'on a bien identifié cette question-là qui monte de façon constante depuis une quinzaine d'années, qui a déjà été bien identifiée, même à l'origine sur le référendum de Maastricht et puis sur le traité européen en 2005. Aujourd'hui, c'est une ligne de fracture extrêmement puissante en France et qui témoigne d'un sentiment d'abandon de la part d'une partie importante de la population lorsqu'elle se trouve effectivement à distance de ce qu'elle perçoit comme étant les signes de réussite économique. C'est lié à l'évidence à ce phénomène de désindustrialisation de la France qui a connu un mouvement extrêmement puissant au début des années 2000 et qui a conduit à la fermeture de centres industriels qui étaient répartis sur l'ensemble du territoire. C'est lié aussi à la baisse et à l'effondrement de la population agricole, qui était aussi une économie extrêmement puissante en milieu rural et qui a été notamment victime de l'action des écologistes sur la politique agricole. La réalité aujourd'hui, c'est que nous subissons les conséquences de ces décisions d'abandon sur ce qui faisait la puissance économique de la France. La France était une très grande puissance agricole. Elle le reste encore en partie, mais elle a subi des pertes considérables. C'était une puissance industrielle et d'innovation dans beaucoup de domaines, et il ne reste plus guère aujourd'hui que la filière aéronautique et spatiale à Toulouse, et celle-ci est régulièrement attaqué par exemple par les écologistes. Hein. Je vous rappelle que les écologistes...
Une caricature, comme d'habitude.
Non.
C'est la caricature
des
républicains.
N'êtes-vous pas
comme
opposé
d'habitude, comme au conseil municipal ou métropolitain.
N'êtes-vous pas opposé aux vols intérieurs qui représentent, au niveau mondial, probablement de l'ordre de 40% des besoins de production
d'avions. Mais les vols intérieurs,
d'avions.
Quand il y a des voies ferrées, on prend le train.
Bien.
C'est tout à fait
donc,
possible.
Vous reconnaissez que vous êtes opposé aux vols intérieurs. Or, vols intérieurs représentent 40%, ce qui veut dire que cette proposition aujourd'hui que portent les écologistes, c'est une proposition qui est de nature à casser la filière aéronautique française. Et sur notre territoire, c'est une décision qui mettrait en péril des dizaines de milliers d'emplois.
Quelle proposition d'écologistes propose l'arrêt de l'aéronautique
J'aimerais
bien savoir.
En tout cas, si vous voulez supprimer les vols intérieurs, les avions sur les voies de chemin de fer, ils ont beaucoup de mal à avancer.
On interroge l'usage de l'avion.
Quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui effectivement un territoire qui est marqué par ces défaillances sur les filières. Troisième exemple qui me semble important parce qu'il est d'actualité, on l'a vécu avec la crise énergétique. Les attaques, parce que c'est probablement ça aussi qui aujourd'hui décrédibilise les écologistes, c'est que pendant 30 ans, leur premier argument, leur première proposition, c'était l'abandon de la filière nucléaire française. Filière qui était une filière d'excellence, qui a subi les assauts et des décisions délirantes, que ce soit de François Hollande d'ailleurs, et très bien réparti sur l'échiquier politique. Hein. Et ensuite, s'agissant de Fessenheim, la confirmation de sa fermeture par le gouvernement d'Emmanuel Macron, la filière industrielle et la filière électronucléaire française était l'une des meilleures au monde. Et aujourd'hui, nous allons devoir ramer pour reconstituer les compétences et pouvoir retrouver notre place dans le monde. Voilà trois exemples qui expliquent pourquoi des territoires se sont sentis totalement abandonnés et qu'aujourd'hui, on a cette séparation, ce divorce entre les zones périphériques et les métropoles urbaines. En ce qui nous concerne et à Toulouse, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver le tissu économique et industriel de la métropole, parce que nous savons que c'est ça qui est au cœur pour des dizaines de milliers d'habitants de la métropole, au cœur d'un projet de prospérité et de croissance, là où nos adversaires sont effectivement fervents partisans de la décroissance.
Alors, je redonne tout de suite la parole à Hélène Cabanne, puisque les écologistes sont interpellés dans ce que vient de dire Sacha Briand.
Ouais, surtout pour corriger.
Je ne veux pas que ça vire un débat entre
sur des
vous.
Éléments objectifs.
Il faut que Pierre Fournier puisse aussi s'exprimer sur la question que je vais poser. Donc allez-y, rapidement si possible.
Je vais faire court parce qu'il y a énormément de bêtises qui ont été dites et de mensonges. D'abord la PAC, nous les écologistes, on est les premiers à soutenir les agriculteurs. La seule chose qui n'est pas dite par M. Briand, c'est que nous, la PAC, on veut la modifier pour faire en sorte que ce ne soient pas les grosses exploitations qui bénéficient de tout le financement européen et que ce soit plutôt des fermes qui utilise du personnel qui a du monde pour mettre du monde dans, justement pour répondre à la problématique de désertification dans les milieux ruraux. Et je suis désolée, mais la PAC, votre groupe, la vote au Parlement européen. Nous, les écologistes, on ne l'a pas votée parce qu'on trouvait que cette PAC était inégalitaire. Ensuite, sur le nucléaire, on va pas y revenir et je pense que ce n'est pas la peine parce que c'est la marotte de M. Briand et on ne sera pas d'accord. Mais si la filière nucléaire aujourd'hui en France va mal, c'est certainement pas à cause des écologistes qui, je vous le rappelle, vous me l'avez bien noté tout à l'heure, n'ont jamais été, ni aucun président de la République n'a été
Madame
quand même...
Madame Voynet n'a-t-elle pas été ministre de l'écologie, n'a-t-elle pas acté
Citez-moi le nom d'un premier ministre écologiste, il n'y en a aucun dans l'histoire.
Dans le cadre de ce gouvernement-là, qu'elle a fait acter au niveau européen,
sur le
une
nucléaire,
baisse de la part de la
consommation. Sur le nucléaire, il y a un dogmatisme en France. Nucléaire. Vous regardez partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas une énergie sur laquelle on a mis de l'argent. Où mettre l'argent les autres pays dans le monde? Sur l'éolien, sur le photovoltaïque. Et ça, en France, on est totalement
en
retard. Très, très en retard. L'énergie renouvelable, aujourd'hui, qui économiquement est très compétitive, alors que le nucléaire est... pas du tout à la hauteur. Regardez le père de Flamanville, vous avez du surcoût énorme. Il est à peine mis en circulation actuellement, ça fait 12 ans qu'on attend que cette EPR soit mise en service. Et on a encore du mal aujourd'hui. EDF dit qu'il y a des problématiques, il y a des malfaçons sur cette EPR. C'est une énergie dangereuse et je suis désolée, on a mis trop d'argent sur le nucléaire et pas assez sur les énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque.
Et Mme Cavan vient de démontrer qu'elle est contre l'énergie nucléaire.
Voilà, ben, bon,
absolument moi... pas, on est pour une sortie progressive du nucléaire et c'est notre position depuis des années.
Voilà, chacun s'est exprimé. Pierre Fournier, bon, on ne va pas parler du nucléaire, s'il vous plaît.
Ah, c'est dommage, on bah, avait
si,
parlé
vous,
déjà
vous
la dernière
en parler
fois.
Mais... si vous pensez, comme Sacha Briand, que ça peut expliquer
non,
les fractures
juste répondre à deux, trois interrogations.
Entre la campagne et les métropoles.
Oui, deux, trois interrogations juste sur Fessenheim. C'est vrai que ça a été confirmé, la fermeture a été confirmée sous la présidence de Macron, mais parce qu'en fait, on a été obligé, les travaux et les mises à niveau auraient été trop chers parce que le projet de fermeture de Fessenheim était prévu depuis bien longtemps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a abandonné le nucléaire, notamment avec les nouveaux investissements que nous avons faits et avec l'EPR2 qui arrive dans les années à venir. Et sur l'EPR de Flamanville, en fait, il y a eu des malfaçons, il y a eu des problématiques parce qu'on n'a pas mis assez d'argent dedans. Aujourd'hui, il va être lancé aujourd'hui.
Fois 5.
Et c'est grâce au nucléaire qu'aujourd'hui, je regarde assez régulièrement ça, on ne produit que 16 grammes de CO2 par kilo... CO2 par mégawattheure, ce qui est un record en Europe. Hein, on a l'énergie la plus verte d'Europe devant l'Allemagne qui produit avec 10 fois plus, voire 20 fois plus de CO2. Et enfin, sur l'industrie, même si pendant des années, en fait, pendant des décennies, notamment avec les gouvernements de droite puis de gauche, on a détruit notre industrie en Europe, enfin en France notamment, on a aujourd'hui... réindustrialiser la France, on commence à réindustrialiser avec le plan France 2030, mais également à Toulouse. Vous avez bientôt la production de Doliprane qui sera faite à côté à Toulouse.
Oui, alors sur les fractures, si on peut, alors, si on peut avoir une réponse là-dessus, parce que j'imagine que aussi oui. À Renaissance, on regarde ça de près.
Ben, en fait, on regarde
ça. Que vous avez pas mal d'élus.
On regarde ça de près, hein. Mais en fait, c'est une constatation qu'on voit dans le monde entier. Et le plus flagrant, en fait, c'est peut-être en France, mais en fait, si vous regardez l'Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu un peu les résultats en Allemagne sur une carte. Vous voyez juste la séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est a voté massivement pour l'extrême droite, quand l'Allemagne de l'Ouest a voté massivement pour la droite traditionnelle. Ce qu'on peut voir, c'est juste, au final, un fossé qui se forme, au final, entre les grands bassins économiques, alors en France, ça va être les métropoles, et les campagnes. C'est une problématique qu'on observe depuis un moment, qu'on essaye au final
Allez-y, trouvez votre
pardon,
mot.
Excusez-moi.
Tranquillement, reprenez votre phrase.
on essaie juste d'améliorer ça, en fait, de ne plus avoir ce genre de soucis avec de la réindustrialisation en France, avec le plan notamment France 2030. Mais c'est une problématique, en effet. En fait, Monsieur Briand a parlé des écologistes. On le voit facilement, en fait. Vous regardez aujourd'hui dans les centres urbains, on vote massivement à gauche, voire extrême gauche. Dans le centre de Paris, vous allez voir notamment sur la Couronne, c'est très, très rouge. En fait, il y a une fracture entre peut-être ces urbains qui pensent finalement assez démagogiquement à une sorte d'écologie populiste où il faudrait interdire l'avion, où il faudrait interdire le TGV d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi ici contre le TGV, contre le Lyon-Turin. Et d'un autre côté,
c'est des caricatures.
En fait, mais non, c'est pas une caricature, madame. Vous êtes contre le Lyon-Turin, vous êtes contre le LGV à Toulouse. Enfin, excusez-moi, mais vous êtes contre l'avion aussi.
Enfin, excusez-moi, ça fait 7 ans que vous êtes au gouvernement. Vous avez fait quoi?
Ben, on a lancé les travaux pour la LGV de LGV Bordeaux-Toulouse. C'est Jean Castex qui a même signé ça il y a 2 ans. Donc en fait, c'est en cours. Les travaux vont commencer.
Non, mais vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous avez vu le résultat du Front National? Vous participez au fait que le Front National soit si haut dans les résultats des élections européennes aujourd'hui?
Ah, mais
vous
avez... on a peur.
Je pense que c'est un échec. Les écologistes ne participent pas à votre gouvernement, donc ne venez pas nous mettre en responsabilité.
Si je peux me permettre, j'ai illustré mon propos de tout à l'heure. J'ai évoqué 3 causes qui peuvent expliquer cette rupture entre l'urbain et le rural et la montée du Front National. Bien, je vais prendre très concrètement la situation de la commune de Fessenheim. Sur la commune de Fessenheim, qui a été frappée par la fermeture de la centrale nucléaire, la liste du Rassemblement National fait 46,98% aux élections européennes.
Oui, beaucoup.
Voilà une illustration très claire.
Dans beaucoup de communes du nord de la France.
Hein. Alors que l'industrie électronucléaire était marquée par une très forte syndicalisation CGT.
Bien sûr.
Donc on voit bien que ce sont ces problèmes-là, la désindustrialisation, la perte du rang de la France dans le monde et sur le plan de ses forces et de ses atouts économiques, l'absence et l'abandon d'une politique de croissance forte. Ça fait des décennies que nous avons des croissances qui sont trop faibles. Ça fait des décennies que nous avons des forces politiques en France. C'est le cas des écologistes, c'est le cas des
LFI, qui n'ont jamais gouverné,
qui proposent des programmes et qui poussent à des actions qui sont des actions portant à la décroissance de l'économie, au prétexte qu'ils pensent que c'est la condition sine qua non pour assurer une politique de développement durable. En ce qui nous concerne, nous nous plaçons résolument sur une politique de croissance économique, de réindustrialisation, qui soit compatible avec la préservation de l'environnement. Et c'est la technologie et c'est les avancées technologiques qui doivent nous permettre de réaliser cet objectif.
Ça seul ne suffira pas. On a besoin, et c'est pour ça aussi, pour répondre à votre première question de tout à l'heure, vous dites peut-être pourquoi les écologistes, parfois, ont du mal à convaincre. Parfois, parce que d'autres fois, ça marche. Les écologistes ont toujours eu un discours de vérité. On ne prend pas les gens pour des idiots. On a en face de nous le mur qui arrive, qui est le mur climatique. Ça fait 70 ans qu'on le dit.
Pourquoi vous
Ça êtes... fait 70 ans, en 74, René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, lève un verre d'eau et dit « Avant la fin de ce siècle, on aura des pénuries d'eau et on aura des problèmes. » Ça fait 70 ans qu'on le dit. Il se trouve que c'est pas très glamour, hein. En effet, hein, ça fait pas très plaisir. Mais c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. On propose des solutions, on met en œuvre des choses qui pourraient nous aider à sortir de ça. Et la croissance à tout prix, elle est fausse. Oui, des secteurs doivent croître, d'autres doivent décroître. Mais cette décroissance doit être accompagnée pour permettre notamment aux salariés de pouvoir se reconvertir et de mettre des fonds à disposition pour faire une reconversion écologique et sociale. Ça, c'est possible. Ça, ce sont des politiques écologiques qui sont tout à fait possibles. On ne va pas laisser les gens au bord du chemin. Effectivement, c'est pas ce que l'on demande.
Je vais revenir sur un point qu'a souligné Sacha Briand en parlant de Fessenheim, en disant que... pays où il y avait des centrales nucléaires, c'était fortement syndicalisé, CGT. On remarque que les classes populaires aujourd'hui votent massivement et de plus en plus pour le Rassemblement national et moins pour les partis dits progressistes de gauche.
Oui.
Comment vous l'expliquez ça?
J'explique parce que des certains nombres de partis de gauche s'est détourné de ces personnes-là, très clairement. Hein. On ne parle pas suffisamment du travail. Moi, je reste convaincue qu'il faut parler du travail aux gens parce qu'aujourd'hui, Je pense que ce vote de défiance, moi je ne veux pas croire, c'est peut-être faux, mais je ne veux pas croire qu'il y a plus de 40% d'extrémistes de droite qui prônent un régime fasciste en France. Ça, je n'ai pas envie de le croire.
Ce serait gravissime.
Je n'ai pas envie de le croire. Il y a des gens qui sont en colère. Il y a des gens qui sont en colère envers les politiques qui ont été menées sur ces 7 dernières années et même certaines politiques qui ont été menées avant. Là, on arrive à un bout du bout, à un ras-le-bol de ces gens-là. Et donc, ils ont tendance à voter pour le Rassemblement national ou pour Reconquête, pour un vote de défiance, en fait, pour dire foutu pour foutu, mais on renverse la table. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire rendez-vous le 30 juin. Et si vous voulez vraiment changer les choses, on est en train de préparer un programme qui s'appellera le Nouveau Front Populaire. Dans chaque circonscription, il y aura un candidat où vous pourrez voter vraiment pour un espoir, pour faire autrement et pour faire autre chose. À ces gens-là, je leur dis la solution extrême droite n'arrangera rien à leurs problématiques.
Pierre Fournier, vous voulez répondre? On termine là sur ce premier et après on va passer à la dissolution.
Non, vous avez dit que vous disiez des vérités, mais le problème c'est que c'est qu'encore une fois, mais je reviens là-dessus, mais sur le nucléaire, vous ne dites pas la vérité. La vérité, c'est que le nucléaire, c'est grâce à ça qu'en France, nous avons une énergie verte et très pauvre en carbone. Si vous regardez l'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est magnifique pour les verts. Ils ont des énergies renouvelables à gogo, ils ont des éoliennes, ils ont des panneaux photovoltaïques. C'est un des pays les plus pollueurs d'Europe et de la planète, mais c'est fantastique selon les verts. Moi, j'en ai un peu marre de ce discours un peu populiste d'Europe Écologie et Vert là-dessus.
Arrêtez le discours populiste des écologistes, faut arrêter. Hein.
Mais non, si, c'est populiste. Vous dites que... Excusez-moi, vous êtes en train de dire que écologiquement, enfin, on ne va pas assez loin, alors que vous soutenez, en fait, excusez-moi, mais vous voulez la fin du nucléaire. En fait, la fin du nucléaire, c'est juste le retour au gaz et au charbon. Nous, on a une énergie propre aujourd'hui avec le nucléaire. Et le problème, c'est...
Mais progressivement, on ne va pas arrêter les centrales du jour au lendemain, appuyant sur un bouton. Hein. Jamais. Yannick Jadot, notre candidat aux élections présidentielles, avait très bien expliqué.
Mais d'ailleurs, ce sont les écologistes qui ont poussé à la fin du programme électronucléaire allemand.
Bien sûr.
Et ils l'ont fait progressivement, tellement progressivement qu'aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne produit 10 à 15 fois plus de CO2 par mégawatt que la France.
Bon, on va arrêter sur ce sujet et vous reviendrez une autre fois, Hélène Cabanne, peut-être pour qu'on parle vraiment de ce sujet-là, qu'on en fasse un des sujets principaux de cette émission. On en reste là pour les commentaires des résultats du scrutin et les enseignements qu'on peut en tirer. Nous allons revenir dans quelques instants sur la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée, prononcée par Emmanuel Macron dès dimanche soir. Petite pause tout d'abord et on se retrouve dans une vingtaine de secondes pour ce deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour à l'antenne, toujours en compagnie d'Hélène Cabanne, Sacha Briand et Pierre Fournier. Très rapidement donc, après l'annonce des résultats des européennes, décevant pour son camp comme l'on pouvait s'y attendre, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives dont les premiers et seconds tours auront lieu les 30 juin et 7 juillet, donc ça arrive très vite. Est-ce que vous avez été surpris à la fois de cette décision et de la rapidité avec laquelle le chef de l'État l'a annoncé? Et vous semble-t-elle logique, compte tenu du score de la liste Renaissance et de la situation politique en France? Pierre Fournier, qui était peut-être dans la confidence, qui sait?
Alors malheureusement, non, je n'étais pas dans la confidence. Et comme à peu près tout le monde, je pense qu'on a été surpris de cette annonce. Et je vais vous dire, en 2 jours, on a eu, ça a été mouvementé, on n'a pas beaucoup dormi.
Vous auriez dit le contraire, je ne vous aurais pas cru.
Non, voilà. Là, aujourd'hui, c'est une journée un peu calme, on va dire. Non, je pense que le président, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un d'audacieux. Il l'a montré en 2017 en créant En Marche, en partant de nulle part, et en créant un mouvement de toutes pièces. Et il est devenu président de la République. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que l'extrême droite est montée à 40% dans ces élections européennes. Les partis de gouvernement ont été mis de côté avec des scores assez bas. Cette dissolution, en fait, c'est un acte de confiance. C'est dire, vous n'êtes pas d'accord, très bien, je dissous l'Assemblée, je vous redonne
la parole.
Et en fait, on demande au peuple de choisir. Quel gouvernement pour le 7 juillet? Est-ce que vous souhaitez l'extrême droite avec Jordan Bardella, avec un programme complètement idiot sur l'économie, enfin avec des risques de chômage élevé, d'augmentation de la dette, etc. Et on a pu le voir, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais la bourse CAC 40 sont écroulées le jour de la dissolution, parce que les économistes ont peur d'un gouvernement d'extrême droite. C'est un acte de confiance, c'est audacieux, et c'est en même temps, en fait, on dit juste... Je vous fais confiance, je vous laisse choisir la suite la suite pour notre pays. En même temps, c'est aussi dire, aujourd'hui, on a une majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué, hein, on va vous pas
ça,
vous cacher.
On l'a remarqué.
C'est un peu compliqué. On a une extrême gauche qui bordélise l'Assemblée nationale, c'est devenu un cirque avec eux. On a une extrême droite qui est assez forte de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est, voilà, on a Gabriel Attal, c'est votre candidat, votre premier ministre sur ces élections. On a un programme clair. Du travail, de l'ordre, de la clarté, et on dit voter pour Gabriel Attal le 30 juin et le 7 juillet.
Voilà, donc, bon, Pierre Fournier, est-ce que vous avez été surpris quand même par le fait qu'Emmanuel Macron l'a annoncé tout de suite et on aurait pu se dire, bon, on va attendre la rentrée quand même, peut-être, pour faire ces législatives, laisser passer les congés d'été. C'était aussi logique pour vous que ça soit dans la foulée ?
Sur le coup, on a été surpris, mais après, en y réfléchissant, je pense que c'était une bonne chose, en fait. Parce que finalement, si ça n'avait pas été maintenant, ça aurait sûrement été après les vacances ou sinon même en octobre ou en novembre parce que...
Il faut faire une campagne quand même. Tout à fait.
Là, on se retrouvait avec une campagne un peu accélérée.
Est-ce que ce n'est pas aussi pour prendre de court un peu tout le monde et en se disant, bon, le RN, ils n'ont peut-être pas vu arriver le coup, ils ne sont pas prêts
Écoutez, nous...
Vous ne pensez pas ça.
Non.
Bon, ça fait brillant.
Moi, je pense que, comme tout le monde, j'ai été surpris. Surpris et atterré parce que la dissolution dans la Ve République, c'est bien quand même de s'interroger aussi sur les sources et les origines. La dissolution de l'Assemblée nationale dans la Ve République, c'est pour régler un conflit entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que le conflit n'est pas entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale, il est entre la majorité et le suffrage tel qu'il a été exprimé sur les élections européennes. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus cohérent le cas échéant d'envisager, c'est probablement ce qu'aurait fait le général de Gaulle, mais évidemment, il n'est plus là, c'est envisager peut-être, face à une situation qui est une situation de désaveu, d'organiser un référendum sur un sujet qui apparaîtrait, le cas échéant, comme au cœur de l'expression telle qu'elle ressort des élections européennes. Ça aurait pu être une réponse cohérente. Dissoudre l'Assemblée nationale quand on a une majorité relative, qu'on fait un très bon score à l'élection européenne, ça peut être cohérent pour tenter de reconquérir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui. Mais quand on voit qu'après une élection présidentielle, on se retrouve avec une montée des extrêmes, l'extrême gauche violente, éruptive qu'on a pu voir et antisémite qu'on a pu voir telle qu'elle s'est exprimée
tout de même fait 10%
depuis plusieurs mois... le Rassemblement national qui ne cesse de progresser de façon quasi irrésistible depuis 2007 et qu'on prend un bouillon à l'élection européenne, peut-on raisonnablement espérer progresser au terme des élections législatives ? Non, la réalité, c'est que depuis son élection, Emmanuel Macron a consciencieusement détruit la gauche social-démocrate, la gauche de gouvernement. Il a consciencieusement détruit la droite républicaine et qu'aujourd'hui, dans le paysage politique, il a créé un paysage politique dans lequel il y a lui, En Marche, Renaissance, l'extrême gauche et le Rassemblement national. Et c'est à partir du moment où les gens ne sont pas satisfaits de son gouvernement, ils n'ont plus d'autre solution que de se tourner vers le Rassemblement national ou l'extrême gauche. Il est responsable de cette situation. Alors, nous aussi, nous portons notre part de responsabilité d'avoir laissé, en tout cas de ne pas avoir su répondre à cette problématique et de ne pas avoir su retrouver la parole et une expression qui permette de constituer une force d'alternance. Mais la réalité, c'est que cette situation et cette dissolution aujourd'hui, c'est une décision qui me semble extrêmement dangereuse, avec des élections organisées dans la précipitation, qui ne peut pas laisser place, parce que ce n'est pas en 20 jours qu'on va instaurer un dialogue en profondeur sur les orientations politiques, donc qui laisse place à simplement le sentiment, qui laisse place à la communication rapide, et qui en vérité laisse place fondamentalement à ceux qui ont un discours effectivement démagogique, avec des propositions simplistes, dont on sait très bien qu'elles ne peuvent pas répondre à la situation économique et sociale de notre pays, mais qui, par leur simplicité, hein, pour les uns, revenir à la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC à 2 000 euros et pourquoi pas à 3 000, bloquer les prix, mais en oubliant de préciser naturellement, et ça il faut un peu plus que 20 jours pour expliquer, que quand on bloque les prix, on bloque les salaires dans tout le tissu de production français, sauf à aller acheter ce qui coûte moins cher à l'étranger pour l'importer dans notre pays. Voilà. Donc je pense que nous vivons aujourd'hui une page noire de notre démocratie et de la Ve République. J'espère simplement que nous n'aurons pas à nous en mordre les doigts dans quelques semaines.
Hélène Cabanne.
Oui, et on ne peut pas dire que les Républicains sont aidants puisqu'ils sont en train de passer avec le Rassemblement National.
Non.
Quand on voit ce que
Monsieur Éric Ciotti
a
Monsieur
déclaré,
Ciotti
quand on
est
voit
lui
ce qui s'est
seul
passé
et vous le
hier.
Savez très bien.
Céline Imar, qui était numéro 2 sur la liste de François-Xavier Bellamy,
qui
était
démenti.
Dans le Tarn, a dit qu'elle partait aussi du
elle
côté
a
du Rassemblement
ça.
National. Je suis désolée, mais...
Elle l'a démenti, c'est Monsieur Ciotti qui a dit ça. Mais il a dit qu'il y avait plein de gens autour de lui. Et quand on a demandé aux gens de le dire, bah, il n'y a eu plus personne. Zéro sénateur et deux députés, dont Monsieur Ciotti.
Et c'est
ça
marrant, quand
monde.
On interview Monsieur François-Xavier Bellamy aujourd'hui, hein, il a été interviewé et qu'on lui a dit, si jamais il y a un second tour entre le Rassemblement National et un candidat nouveau Front Populaire,
non, LFI,
il vote. Il vote.
La question, c'est LFI.
Il vote au Rassemblement
non,
National.
Candidat LFI.
Bref, je reviens à votre question. Vous disiez effectivement la surprise, évidemment. Enfin, tout le monde a été surpris. Je crois que ça s'est décidé à 10. Vraiment, c'est un secret. Personne ne l'a vu venir. Aucune formation politique. Même la plupart des députés Renaissance étaient même pas au courant. Okay. Donc voilà. Donc ça montre aussi un manque d'irrespect aussi par rapport à un certain nombre de choses et des institutions aussi. Moi, je considère que c'est irrespectueux des institutions. Demander à un pays de s'organiser en 3 semaines. Les gens sont venus nous voir en disant « je vais m'inscrire sur les listes électorales ». Il paraît que ce n'est plus possible. Donc, il dit « je reviens vers le peuple français et je demande qu'ils donnent leur avis ». Mais si on ne peut même pas s'inscrire sur les listes électorales puisqu'il n'y a que 3 semaines de délai, c'est irrespectueux. Qu'ils réagissent, c'est normal. Vu ce qui s'est passé, vu les résultats du dimanche soir, c'est normal qu'ils réagissent, qu'ils changent de politique. Pourquoi ils ne changent pas de politique? Les Français étaient d'accord sur une chose, non à la réforme des retraites à 64 ans. Pourquoi ils ne reviennent pas sur ça? C'était facile de le faire. Il faut faire preuve un peu d'humilité. Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron est quelqu'un d'audacieux.
Oui, d'accord. Et je le redis encore. Mais en fait, je suis affligé par ce discours de dire c'est dangereux. Depuis quand c'est dangereux de donner la parole au peuple?
Mais...
Enfin, je veux dire,
j'ai pas dit que c'était dangereux de donner la parole
mais
au peuple.
Mais si, en fait, c'est ce que
j'ai
Monsieur
dit, c'est
Viren
Monsieur
a dit.
Macron dit, je reviens vers le peuple
oui.
pour qu'il dise, pour moi s'exprimer. Mais comment il peut s'exprimer s'il peut même pas s'inscrire sur les listes électorales?
Oui, alors c'est quand même un point important, ça, parce
alors,
que c'est la rapidité avec laquelle savoir. Il veut organiser ses
mais
élections
bien sûr.
Qui interroge.
Pourquoi
tout de même.
Ça se fait pas en automne,
alors,
par exemple?
Déjà, pour répondre sur les inscriptions sur les listes électorales, les gens sont inscrits automatiquement sur leur liste. Hein, ils peuvent se réinscrire.
C'est pas toujours
pour
le cas.
Si, normalement, ils sont bien inscrits automatiquement à leurs 18 ans et ils peuvent se faire réinscrire dans une autre commune s'ils habitent sur une nouvelle commune. Ça a été fait pendant les élections européennes. Ils avaient l'occasion aussi de se réinscrire sur les listes électorales pour voter dans la commune où ils habitent. Ensuite, excusez-moi, mais la Constitution est ainsi faite. Quand le président dissout l'Assemblée nationale, il a l'élection doit se faire au minimum 20 jours après ou au maximum 40 jours. Il n'allait pas dire « je vais dissoudre, mais en automne ». Ça ne marche pas comme ça. Donc il a consulté le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, il a décidé de dissoudre et il dit juste aux Français, choisissez-nous une nouvelle majorité au Parlement, choisissez un nouveau Parlement.
Moi je considère que c'est brutaliser les institutions, brutaliser le pays, aller toujours trop vite, prendre les gens de surprise, on n'est pas au casino là, on ne sait pas
Mais
ce qui va
fait,
sortir
on,
le 7 juillet,
sort,
c'est dangereux ce qui peut
d'une...
sortir du 7 juillet au soir.
C'est vrai, hein, ça
non.
pourrait être un gouvernement LFI.
Ouais, ça
c'est
pourrait
vrai.
Surtout être l'extrême droite avec un régime fasciste.
D'accord, donc on dit aux Français, vous votez très mal. En fait, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Les Français, en fait, on leur donne ce choix-là. Donc vous allez dire que les Françaises ne votent pas bien ?
Il faut leur donner la capacité de voter. Si vous ne leur permettrez même pas de s'inscrire sur les listes électorales, ils ne peuvent même pas donner leur avis.
Mais ils ont pu... Excusez-moi, mais il y a eu une élection européenne. On vient de passer une élection européenne. Ils ont eu l'occasion de s'inscrire. Et en fait, ils sont déjà inscrits pour beaucoup.
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits, vous le savez très bien.
Mais oui, mais... Excusez-moi, mais...
ils ne sont certainement pas allés voter pour les européennes. Par contre,
c'est
pour savoir
Donc,
si on a un gouvernement fasciste, ils vont être intéressés à aller voter le 30 juin.
En fait, ça aurait été la même chose si ça avait été 40 jours. Vous nous auriez dit la même chose. Là, aujourd'hui, ils avaient la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales juste après la dissolution. Aujourd'hui, ils peuvent toujours faire des procurations jusqu'à la veille, je crois, du scrutin ou quasiment la veille. En fait, ce qu'on dit juste, c'est...
Quelle était l'urgence? On laisse passer les JO et ils dissout l'Assemblée à la rentrée?
Mais excusez-moi, mais c'est
pu,
quoi le problème?
Il aurait pu annoncer son intention de dissoudre l'Assemblée en disant « nous organiserons des élections à l'automne ». Ça aurait pu être ça, hein, éventuellement.
Ça fonctionne.
Tout le monde aurait été prévenu comme ça.
Oui, mais en fait, il aurait annoncé une dissolution, et à partir du moment où on annonce une dissolution, elle doit se...
Il faut qu'il y ait des élections dans la foulée.
Voilà,
vous voyez bien que bon. Moi, qui suis très attentif à la parole du peuple, parce que c'est,
oui, c'est
ma
ça.
Conception de la politique et de mon histoire personnelle, c'est pour ça que l'hypothèse d'un référendum aurait été une alternative, même si je ne suis pas persuadé qu'il se justifiait, aurait pu être une alternative
un référendum
pertinente.
Sur quoi?
Ben sur un sujet, si on considère que le résultat
des
élections européennes
qui pourrait faire l'objet d'un référendum
emporte du sens. Madame Cabanne, elle pense que l'élément central, c'était la réforme des retraites. D'autres pourraient dire, vu le score du Front National, que du Rassemblement National, que peut-être il y avait une question sur la loi immigration qui a fait l'objet d'un très vaste débat à l'Assemblée nationale, qui a été très largement amendé par les parlementaires LR et très largement annulé par le Conseil constitutionnel.
Qui a été voté grâce aux voix du Rassemblement National.
Il aurait pu être un sujet. Il y aurait pu avoir un sujet sur ce thème-là. On pouvait trouver deux ou trois sujets potentiels
de référendum sur l'immigration
qui auraient permis de donner la parole au peuple sur l'un des sujets, leur permettant de donner une nouvelle orientation mais à la politique gouvernementale.
On
Moi,
a un référendum en soi.
Aucun
là.
Des deux sujets.
On dit juste très bien. Enfin, on a eu une élection. On dit juste très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. On dissout l'Assemblée, décidez pour vous.
Alors c'est très intéressant tout ça, parce que j'allais vous poser une question, et bon, bah, je vais la poser un peu plus tôt que prévu. L'idée du référendum, ou l'idée de se dire après tout, bon, bah, ce vote aux législatives, ce serait un peu comme si c'était un référendum. Sacha Briand a fait allusion, référence au général de Gaulle, en pensant sans doute très fort au référendum de 1969. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron mette sa démission dans la balance? Par exemple, si le résultat des législatives ne donne pas de majorité du tout, ni de son camp, ni d'un camp opposé, c'est-à-dire qu'on se retrouve de nouveau avec une assemblée qui va rendre ce pays peut-être encore plus ingouvernable qu'il ne l'était déjà. Sacha Briand.
Ah bah, là, j'avoue qu'après les européennes, deux tours de législatives, si le président de la République venait à démissionner en plein mois de juillet... et au moment où la France va accueillir les Jeux Olympiques, là, ça serait un tableau absolument complet. Moi, je ne suis pas un partisan de la conflictualisation du
scrutin,
climat politique
et du scrutin aussi,
qui est le mot d'ordre de LFI, il faut quand même le rappeler. Hein. Je ne crois pas que la bordélisation de la société française soit une solution de s'en sortir. Et d'une façon générale, je considère que quand on a reçu un mandat, on doit l'assumer. Et l'assumer jusqu'à son terme. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette dissolution ne m'apparaissait pas indispensable.
À ce moment-là, en tout cas.
Et en tout cas, à ce moment-là, mais même pas indispensable, dans la mesure où il y avait d'autres solutions pour trouver des voies, et qu'il y aurait pu y avoir des discussions au sein de l'Assemblée nationale pour trouver des plateformes et des négociations sur les textes, à partir du moment où il y avait une bonne volonté à la fois des groupes politiques et du gouvernement, ce qui n'a pas été jusqu'à présent constaté. Donc non, moi, je ne fais pas partie de ceux des pompiers pyromanes qui vont dire il faut que Emmanuel Macron démissionne si le résultat des élections législatives n'est pas satisfaisant. Je crains malheureusement que les résultats étant acquis, la situation soit suffisamment compliquée pour ne pas ajouter à la confusion.
Hélène Cabanne.
Oui, pour le coup, je partage ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que dans l'histoire de la France, il y a déjà eu des cohabitations. Elles se sont pas trop mal passées.
Oui, mais encore faut-il qu'il y ait une majorité à l'Assemblée pour que le Premier ministre et son gouvernement puissent gouverner.
En effet, mais des cohabitations ont existé de par l'histoire en France, et ma foi, on s'en est quand même pas trop mal sorti, on pourrait dire, jusque-là. Le risque essentiel surtout, et j'insiste là-dessus, c'est d'avoir un Premier ministre issu de l'extrême droite, et donc... en ayant tendance à aller vers un régime fasciste. C'est ça l'enjeu du 30 juin, j'insiste là-dessus, c'est de savoir qui va sortir premier des résultats des législatives.
Ben, y a déjà des sondages qui donnent une certaine esquisse de ce que pourrait être la future Assemblée et la majorité qui en sortira, qui ne sera sans doute pas absolue par contre.
Alors... Non, le président ne va pas démissionner. Hein. Il y a eu des rumeurs, mais il a coupé court au...
Ça, je n'ai pas anticipé le fait qu'il avait l'intention de démissionner.
Non, en fait, c'est une séparation des pouvoirs. Je veux dire, le président a été élu en 2022. Il a été bien élu. Il a été premier au premier tour. Il est arrivé premier au second tour. Il a été élu par les Français qui ont voulu de lui pendant 5 ans. Aujourd'hui, il dissout l'Assemblée nationale. Demain, on verra ce qu'on aura au Parlement, mais je pense que par la force des choses, il n'y aura pas une assemblée, comment dire, ingouvernable. On parlementarise de plus en plus, finalement, c'est la 5e République, et c'est une bonne chose. Au final, le pouvoir revient un peu plus à l'Assemblée nationale, Et demain, en fait, nous...
Avec tous les 49.3 qui sont passés, excusez-moi, mais...
Mais oui, mais justement,
vous exagérez, là.
Je ne sais pas si la cinquième groupes... est faite pour le tripartisme.
Mais c'est peut-être parce que, en fait, on a des groupes parlementaires qui n'ont pas voulu travailler avec la majorité alors qu'on leur tendait la main, que ce soit les partis socialistes ou les républicains.
Oui, réciproquement.
Mais peut-être, mais potentiellement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est OK, c'est on n'arrive pas à vous trouver des majorités de projets sur certains sujets. Il y a eu des 49.3, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de censure. Donc, de facto, les lois sont passées. Et derrière, on dissout. On verra quels résultats nous aurons le 7 juillet. Et à partir de là, en fait, il y aura sûrement... Nous, ce qu'on dit, c'est si on arrive en force, mais avec une majorité relative, on dit... Nous tendons la main aux républicains, nous tendons la main aux socialistes, nous tendons la main aux écologistes pour former un gouvernement de coalition et un gouvernement républicain. C'est, je vais vous dire, hein, sur ces élections, si on se retrouve avec des triangulaires où le Rassemblement national est fort, moi je dirais à mes candidats, retirez-vous, laissez les socialistes, laissez les républicains gagner.
Et même si c'est la France insoumise, vous ferez la même chose ?
Non, sûrement pas.
Voilà. Donc là, vous voyez. Enfin, je suis désolée, mais il faut reprendre un peu de hauteur de vue là. On est dans un moment historique pour notre pays. Le 30 juin prochain, moi, j'en appelle vraiment aux électeurs et aux électrices, et j'en appelle vraiment à tous ceux qui se sont pas déplacés dimanche dernier aux européennes. Il va falloir vraiment faire un choix de société. Il va falloir vraiment dire de quoi on a envie pour la France. Est-ce qu'on a envie d'un gouvernement d'extrême droite? Qui peut tendre vers un régime fasciste.
Ou d'un gouvernement d'extrême gauche tendant vers un régime
trotskiste. Arrêtez de mettre un choix, signe ça. D'égalité entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Excusez-moi, l'extrême droite, elle vient d'où ? Pour comprendre où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front national, a été créé par des Waffen SS.
Et vous pensez que c'est les mêmes aujourd'hui qui tiennent le parti ?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais je suis désolée, quand vous avez cette histoire, cet héritage, il est là. Vous savez d'où vous partez quand même. Donc, je suis désolée, mais certains disent, oh ben, on va mettre le Rassemblement national, on n'a jamais essayé. Mais si, on a essayé. C'était la France de Pétain des années 40. On a essayé. Donc moi, je dis aux gens, s'il vous plaît, le 30 juin, mobilisez-vous, allez voter, et dans toutes les circonscriptions, il y aura une candidature unique. La gauche et les écologistes vont se mettre d'accord, il y aura une candidature unique qui s'appelle le Nouveau Front Populaire.
Ah, c'est alors, bien. Malheureusement, c'est pas encore le cas.
On va pas parler maintenant, parce que c'est trop court, des tractations actuelles à gauche, à droite, des épisodes tragicomiques chez les Républicains. Bon, il y a des sondages quand même qui sont sortis, et qui sont sortis des urnes, on pourrait dire. Aujourd'hui, bon, le RN, on annonce une forte poussée du RN, on ne sait pas, mais a priori, plus de 200 députés tout de même. Il y a de fortes chances aujourd'hui qu'ils aient une majorité donc qui ne sera probablement pas absolue. Alors à quoi vous vous attendez au soir du second tour, le 7 juillet ? Qui pourrait être nommé Premier ministre ? Quel gouvernement pourrait avoir ? Ça me paraît aujourd'hui extrêmement compliqué d'imaginer quelque chose qui ressemble à quelque chose.
Moi je pense qu'il est vraiment très tôt pour faire des conjectures sur ce qui peut arriver. On a une situation tout à fait atypique.
Inédite.
Ce qui est assez terrifiant, c'est d'entendre ce qui vient d'être dit par Hélène Cabanne, qui voudrait faire croire qu'il y a une différence entre des gens dont elle prétend qu'ils sont fascistes, hein, avec un projet fasciste. Dieu sait que dans ma famille politique, et malgré les péripéties des 48 heures, il n'y a jamais eu de tentation d'aller vers le Rassemblement national, mais je crois qu'il faut être sérieux. Et c'est probablement, à force d'arguments aussi simplistes et absurdes,
ce sont des faits,
que
hein.
Aujourd'hui,
regardez
des
l'histoire
jeunes,
du Front national, ce sont des faits que j'ai donnés.
Des jeunes qui ne savent même pas qui est Pétain, tant le programme de l'éducation
je fais
nationale
une différence.
S'est effondré dans sa qualité et dans sa complétude.
Je fais une différence entre les électeurs du Front National et les dirigeants qui prennent leur carte.
Et qui n'ont pas vécu, comme j'ai vécu, la montée programmée du Front National, voulue et orchestrée par François Mitterrand dans les années 80.
Tout le monde en a profité de la montée.
Moi, j'ai
du
vécu
RN.
Ça, donc je connais l'histoire du Rassemblement National, je connais les tendances initiales et le groupuscule de nazillards qui, autour de Jean-Marie Le Pen, ont constitué ce mouvement politique, mais je vois aussi aujourd'hui ceux qui ont rejoint ce mouvement politique et qui ne m'apparaissent pas représenter ce que vous évoquez là.
Très bien, donc vous êtes dans l'initiative, vous êtes prêt à leur tendre la main et d'aller avec eux. Parfait, c'est clair, c'est très clair.
Parce que moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est le programme. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le programme qui est porté par le Rassemblement national est un programme qui pousserait la France dans l'abîme de la dette des déséquilibres économiques.
Il n'y a que ça qui vous dérange.
Dans le chômage et dans une situation, à mon avis, qui serait extraordinairement compliquée.
Il n'y a que ça qui vous dérange dans le programme du RN.
Et lorsque je regarde le programme de l'extrême gauche et notamment de LFI, qui aujourd'hui porte le Front populaire tel qu'il est constitué par l'abandon de leurs valeurs, notamment par les socialistes, mais manifestement aussi par les écologistes, je constate les mêmes risques d'effondrement économique, de dégradation de la situation de la société française, de conflits permanents organisés entre les composantes de cette société et de gouffres dans lesquels notre pays serait jeté. Et c'est ni l'un ni l'autre qui sont aujourd'hui en capacité apporter un programme de redressement.
Très bien, vous mettez un signe d'égalité entre la gauche et du coup le Rassemblement national.
Je donne
bravo,
le mot
à
Pierre Fournier qui puisse aussi s'exprimer sur le sujet. Il vous reste
Pour répondre à votre question qui était portée sur à quoi ressemblera finalement notre Assemblée demain et qui gouvernera. Moi, je pense franchement que la majorité, enfin que notre liste Ensemble pour la République pourra gagner ces élections, arrivera avec une majorité à l'Assemblée nationale. Les sondages, c'est encore trop tôt aujourd'hui. On ne sait pas. Honnêtement, on est. Non, mais les électeurs.
La dynamique du RN sera peut-être moindre que ce qu'on attend.
Bien sûr, mais s'ils n'ont pas une majorité absolue, en fait, ils ne peuvent pas former de gouvernement parce que personne ne votera la confiance de ce gouvernement. Et il sera censuré dès.
C'est bien toute la question.
Et nous, moi, c'est ce que je dis, c'est même si on n'arrive pas à sortir une majorité de ce Parlement. On tendra la main aux LR et aux socialistes,
très
et
bien.
Même aux écologistes.
Allez, c'est la fin de cette 150e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé, d'avoir apporté vos contributions et vos convictions à nos débats sur des sujets qu'il est bien difficile d'appréhender. Merci à Hélène Cabane, très combative. Merci aussi à Coraline Camebra qui a réalisé cette émission. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à vous tous, chers auditeurs, aux fidèles comme aux nouveaux. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.